Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
On va parler à présent d'une histoire qui remonte à février dernier. Vous en avez probablement entendu parler. Un jeune juif meurt écrasé par un tramway à Bobigny. Cet homme est décédé après avoir été heurté. Nous sommes en ligne avec Shana de l'association Paul Maraire. Bonsoir Shana.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Et nous sommes en ligne avec deux de vos invités, Gérald Cohen qui est le papa de la victime. Bonsoir Gérald.
Bonsoir monsieur.
Et Raphaël Cohen qui est son frère. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Alors Shani, on va commencer avec vous parce qu'en fait la famille s'est tournée vers vous après avoir fait un travail formidable, incroyable d'ailleurs, incroyable et formidable. Pour retrouver les vidéos avant le moment où le jeune homme heurte le tramway et trouve la mort. Et là, Shani, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Alors, effectivement, ce qu'ils ont trouvé, c'est que des gens ont pris effectivement des vidéos de l'accident, qui n'est pas un accident, parce qu'il faut dire que Jérémy a été malmené et battu, il est tombé un petit peu dans un guet-apens, et suite à ça, effectivement, il n'avait pas le choix d'avancer, et le tramway est passé, en fait, je vous la fais courte. La famille
mais
a
excusez-moi,
travail...
mais c'est très bien de la faire courte, parce que c'est ça l'histoire.
Voilà,
c'est que
c'est ça, l'histoire.
Les gens ont pris des photos, ont pris des images sur leur téléphone portable, et qu'est-ce qu'on voit, un truc que moi j'avais entendu parler, franchement, de cette histoire, parce que c'est un jeune homme qui est en banlieue, nous ici à la radio, on a entendu parler de ça. Et on découvre que quoi ? Il était en train de se faire frapper par des jeunes, qu'il a pris la fuite. C'est plus du tout la même histoire.
C'est pas du tout la même histoire que nous ont donné les médias. Et là, je vais donner le temps de parole au papa et au frère Raphaël qui vont prendre la suite de l'opération. Depuis le départ, je suis avec eux et franchement, j'ai lâché pas. Écoutez.
Alors, on va entendre peut-être, avec votre permission, peut-être d'abord Raphaël. Monsieur Cohen, ne prenez pas mal, je demande à votre fils parce que je crois que les histoires de portables, c'est surtout les jeunes. Raphaël, c'est vous qui avez eu cette idée de dire on va chercher les téléphones. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pris des images et je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose avant.
Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, j'étais avec mon autre frère. On était ensemble quand on a pris cette décision. Moi, je suis résident en Israël. Je ne vivais pas en France au moment où ça s'est produit. Et donc, lorsque j'ai appris le décès de mon frère, je suis venu pour pouvoir assister mes parents dans différentes démarches, notamment l'enterrement, et prendre connaissance un petit peu de ce qui se passait. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que, bon, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, parce que, bon, vous voyez, mon frère était en santé correcte, il n'avait pas de problème particulier à ce moment-là. Et donc, on ne comprend pas qu'une chose pareille puisse se produire, parce qu'on a toujours vécu sur Paris, en banlieue parisienne.
Il porte une kippa ?
Alors, il avait une kippa. Je n'étais pas avec lui au moment où ça s'est produit, donc je ne peux pas vous donner un témoignage exactement comment il était, si c'était sur lui ou pas. Il y a une kippa qui a été retrouvée, ça je peux vous le confirmer.
Raphaël, il y a une altercation. Alors, excusez-moi d'être très direct, mais ça change tout. Il y a une altercation et il prend la fuite ou les jeunes le poussent ?
Alors écoutez... Je peux pas exactement vous dire ce qui s'est passé. Encore une fois, j'étais pas sur place.
Non, mais vous avez les vidéos, sinon on serait pas en train de discuter. Parce qu'il faut savoir que c'est devenu très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui a décidé de rouvrir le dossier. Donc on n'est pas là en train de se dire « Ah, mais j'ai l'impression... » On parle pas pour ne rien dire. Il y a un juge d'instruction qui a jugé les faits suffisamment graves pour réouvrir le dossier.
Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une procédure qui est en cours. Vous avez raison. Et c'est justement pour respecter cette procédure et ne pas lui nuire que je ne peux pas non plus répondre à toutes vos questions à cet instant précis. Mais tout sortira, soyez-en certains, en temps voulu et de la meilleure manière. Ce que je peux vous dire par rapport à la question que vous m'avez posée initialement sur les vidéos, du fait que nous ne comprenions pas comment cet accident a pu se produire. Nous nous sommes rendus sur place avec mon frère et avons commencé à observer les lieux, parler avec les gens et avons... lancer un appel à témoins, en distribuant des flyers.
Vous avez distribué des flyers sur le lieu de la mort de votre frère ?
Exactement. Maintenant, on ne l'a pas fait en nous adressant à la population, on l'a fait en distribuant dans les boîtes aux lettres. Donc les gens qui vivent autour ont reçu cette demande de notre part. Et ce qui s'est passé, c'est que de manière assez étonnante, on a commencé à obtenir des retours. On a commencé à obtenir des gens qui nous...
Moi j'ai pris, moi j'ai filmé, moi j'ai vu...
Ouais, au début c'est des rumeurs, on a entendu que, moi j'ai pas vu mais j'ai entendu que, bon, vous imaginez bien que les gens ne veulent pas mettre en cause directement des gens qu'ils connaissent peut-être. Donc c'est très compliqué dans ces conditions de faire la lumière. Mais on a eu effectivement un témoignage déterminant d'une personne qui a pu filmer ce qui s'est passé. Et cette chose-là a pu relancer l'enquête d'une manière très très importante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes avec vous aujourd'hui, pour lancer un appel au pouvoir public, au parquet, à la police. Nous leur demandons de nous aider à faire la lumière sur cette affaire, de nous accompagner. Voilà. Nous souhaitons vraiment travailler avec eux et leur fournir tout ce que nous avons pour que ça puisse avancer de la meilleure manière possible.
Alors, on va entendre votre père, Gérald Cohen. Gérald, est-ce que vous avez l'impression que, parce que je pense que c'est ce que se disent beaucoup d'auditeurs en nous écoutant, que dans la première version, sans les vidéos, la police a voulu faire en sorte que le dossier soit fermé. Voilà, je vous dis la question comme ça.
Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est les faits et être factuel. Tout d'abord, si ça ne vous embête pas, je vais vous dire que perdre un enfant, comme Jérémy, qui était extrêmement gentil, qui avait bon cœur, qui aimait les sons au prochain, qui n'avait aucun problème particulier, déjà pour nous, notre famille est détruite quelque part avec sa mort et toutes les souffrances qu'on lui a fait, et surtout par le fait qu'il a été massacré par une jeune en bande organisée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, après qu'on a été à l'hôpital voir son décès, où je lui ai fait les premières prières chez Maï Israël et les Tehillim, mais nous avons vu un pansement sur le niveau de l'œil. Le lendemain, on a été au commissariat, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Ils nous ont mis chacun dans un box, et ils nous ont posé des questions, et puis ils nous ont dit que notre fils avait couru entre les voitures et qu'il était poursuivi et qu'il semblerait qu'il avait une kippa blanche. Et après, ils nous ont fait signer un papier et on est reparti. Et entre-temps, si vous voulez, on est rentré chez nous, on était complètement dans un autre monde.
Vous étiez ahuri. Vous avez votre fils qui est victime à minima d'un accident et vous avez l'impression qu'on vous demande mais comment ça se fait qu'il était là, etc.
Voilà, je comprenais rien. Moi-même, on ne comprenait pas ce qui se passait, quoi. Donc après, on a essayé d'organiser les obsèques. Et qu'on puisse terminer la semaine suivante d'organiser les obsèques, mon épouse, ainsi que Raphaël et Gabriel, mon épouse et mes enfants, ils ont été au commissariat de police. Et là, on leur a dit qu'ils n'avaient pas eu le rapport de freinage, ils n'avaient pas vu les caméras de la ville ou qu'elles semblaient floues, qu'ils n'avaient pas eu qu'ils n'avaient pas interrogé le chauffeur, qu'on avait appris entre-temps par les journaux qu'il y avait une enquête pour homicide qui avait été ouverte, on ne savait pas trop quoi, et qu'ils n'avaient pas vu non plus les caméras de la RATP, mais qu'ils décidaient de fermer ou de classer, je ne sais pas les termes juridiques, excusez-moi, je ne connais rien, qu'ils avaient décidé de fermer l'enquête, ou d'arrêter l'enquête, ou de classer. Ou que c'est un accident de circulation, enfin je sais pas trop.
Et donc, je vais préciser, si tu me permets, Baba, je vais juste préciser quelque chose.
Raphaël.
Oui, vous m'entendez?
Uh-huh.
Parfait. Initialement, une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
Ah,
ça a été relayé dans différents articles de presse.
Donc ça veut dire que c'est bien lié à l'altercation, déjà, on commence là. Alors, c'est où il a fui, voyez, où on l'a poussé. Mais alors, involontaire, ça veut dire qu'on ne voulait pas le tuer non plus. Mais
disons qu'involontaire, c'est quelque chose de grave. Mais disons qu'on ne sait pas vers qui c'est adressé. Est-ce que c'est adressé vers le chauffeur? Est-ce que c'est adressé vers les assaillants? Ce n'est pas clair, la police ne nous a pas communiqué de détails. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que quelques jours après le décès de mon frère, et sans avoir vu les caméras du tramway, l'enquêtrice qui m'a reçu me confirme que nous nous orientons vers un accident de la circulation. Ce qui est incompréhensible sans avoir vu les caméras. Voilà.
Mmh. Voilà. Alors, moi, si vous me permettez, ce que je voudrais ajouter, c'est grâce au travail, donc à ce moment-là, on était encore plus abasourdis. On comprenait rien ce qui se passe. Bon, par la suite, après les jours de deuil, entre-temps, Gabriel et Raphaël, grâce à leur travail, ils ont pu récupérer les vidéos, des témoignages. Et je remercie tous les gens, quels qu'ils soient, qui ont voulu nous aider pour tous ces témoignages et toute l'aide qui nous a été apportée à ce niveau-là, quel qu'il soit. Et donc, par contre, je me pose une interrogation aujourd'hui. Premièrement, je voudrais également ajouter, c'est pourquoi la famille doit mener sa propre enquête pour découvrir la vérité et se confronter à toutes les vidéos et témoignages plus horribles les uns que les autres. La seconde chose, c'est pourquoi est-ce que la famille doit fournir les preuves à la police et à l'IGPN afin que l'enquête soit à nouveau ouverte. Ça, je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui.
Mais parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous avez fait quelque chose... Personne ne fait ça.
C'est passé.
Ça n'existe pas. On voit l'affaire quasiment classée et les frères décident de retourner sur le lieu où meurt leur frère, distribuent des flyers dans les boîtes aux lettres, font des appels. On a ça nulle part. Pourquoi c'est vous qui avez eu les vidéos? Parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel.
Voilà. Malheureusement, si on n'avait pas fait appel à un témoin concernant le massacre de Jérémy, mon fils handicapé, celle-ci, elle serait passée à la trappe.
Ah, il est handicapé?
Mon fils est handicapé. C'est quelqu'un qui a fait des études, mais qui est lent, qui est lunatique. Il a vraiment bon cœur. Il donne tout ce qu'il a. Il a déjà été. C'est quelqu'un très sensible, très doux.
Il a un handicap qui n'est pas visible physiquement. Et par respect pour sa mémoire, je ne vais pas développer davantage sur ça. Mais disons que. Qui était reconnu handicapé, mais que ce n'était pas forcément une chose qui apparaissait quand on le voyait.
Un
mot de conclusion, s'il vous plaît, Gérald. Un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous voulez conclure? Vous parlez sur Radio Shalom, vous parlez à la communauté, qu'est-ce que vous voulez lui dire?
Alors, je conclue. Je vais dire tout d'abord que moi, je fais confiance à la justice et que j'espère que la justice soit rendue à Jérémy. Et je voudrais absolument remercier toute la communauté juive qui nous a soutenus et qui a permis un enterrement digne à Jérémy. Je voudrais remercier la Fondation Kazib Kojazor, Kochavim Shel Chaim, Dan Medina et Sam Shportich, et surtout également Madame Ancri et Madame Shana Bisnut de l'association Paul Marer qui a vraiment s'est battue pour nous, pour l'enterrement, qui se bat encore pour nous, pour que simplement qu'un enfant qui a été massacré, un enfant handicapé qui a été lâché, massacré comme ça, et que il a juste un dernier mot, il faut savoir que quand ils l'ont mis dans un coin, ils l'ont tapé, coup de pied, il était ensemble, c'est qu'il avait dents cassées et tout. Il s'est relevé. À ce moment-là, il y a encore quelqu'un qui est arrivé de la bande et il a massacré, il a frappé toutes ses forces sur sa tête au sol. Il s'est relevé avec un dernier effort, je ne sais pas dans quel état il était, il titubait. Et là, à ce moment-là, le tramway l'a percuté. Et là, il est décédé. Mais voilà. Donc, si vous voulez, il avait déjà été complètement massacré avant. Donc, je ne sais pas le peu de force qui lui restait. Et on a malheureusement toutes les preuves qui ont été remises aux autorités nécessaires, c'est-à-dire aussi bien la police que le parquet, que nos avocats.
Très bien. Alors, Bernard, ça sera le mot de conclusion, s'il vous plaît, Chani.
J'ai 30 secondes. Je voudrais préciser que la police a remis la kippa blanche à la famille le jour du décès. Donc, sur les lieux, ils ont retrouvé la kippa de Jérémy. C'est un élément important. Voilà.
C'est important parce que la généralisation. Non, il n'y a pas de quoi. Radio Shalom est là pour ça. Merci à tous les trois. On vous soutient évidemment totalement dans votre combat avec nos moyens à nous, avec ceux d'une radio. On fera savoir cette histoire, on la fera connaître. Un dossier donc est suivi actuellement. Peut-être que on va recevoir des coups de fil. Peut-être que vous, donc vous êtes à Bobigny, hein.
Voilà, je vais dire une dernière chose, vraiment une dernière chose en 30 secondes. Je voudrais faire un appel à témoins. Si quelqu'un a vu quelque chose, il peut contacter, si vous m'autorisez, c'est un témoignage anonyme au 06 15 31 73 53 ou sur l'adresse bobigny236@hotmail.com. Et je voudrais remercier absolument Radio Shalom, vous remercier monsieur.
Pas de quoi, on n'est pas là pour ça.
De nous avoir permis de nous aider pour la mémoire de notre fils handicapé qui a été massacré. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ils ont fait ça. Voilà, on ne sait pas. Voilà, il est.
Merci Gérald. Je comprends votre émotion. Merci. On va être beaucoup. Vous avez des fils qui sont très très efficaces. Donc on va être très efficaces avec Shana. Non, mais j'ai pas besoin de remerciements. Merci Gérald. Franchement, on n'a pas besoin de remerciements. On a besoin de trouver la vérité. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme ça. En fait, ceux qui ont des informations sur cette histoire, ils appellent la radio. Là, parce que là, le numéro de portable, on pourra pas le redonner. Les gens vont évidemment qu'ils peuvent appeler le portable. Allez-y. D'ailleurs, vous êtes à Bobigny, vous cherchez la choule, vous retrouverez facilement la famille. Donc faites-le. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais nous, on va donner notre numéro, que les gens connaissent très bien à l'antenne. 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. C'est notre standard. Si vous avez des informations, si vous avez vu quelque chose, si quelqu'un vous a parlé, vous a dit « moi j'y étais », vous nous appelez et nous, on transférera et à Shana de l'association Paul Maraire, et à Raphaël, le frère de ce jeune homme, et à Gérald, son papa, on va essayer d'être efficace, comme je disais, et d'avoir des résultats. Gérald Cohen, Raphaël Cohen, merci à tous les deux.
Merci à vous.
Bonsoir à vous. Et bonsoir. Merci à Shana.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.